VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Processus de paix au Mali, le mécanisme opérationnel de coordination mis en place pour les patrouilles mixtes commence à prendre forme. Quelques 600 hommes composés d'éléments des FAMA, les forces armées maliennes, de la plateforme pro-gouvernementale et aussi de la CMA, les ex-rebelles Touareg, sont attendus pour une formation de 45 jours à Gao avant de commencer les opérations militaires sur le terrain. Pour le moment, seule la CMA n'a pas répondu à l'appel. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Après plusieurs reports, les premiers éléments du MOC sont entrés ce mardi 13 décembre 2016 au camp du MOC où ils doivent recevoir une formation de 45 jours avant d'être sur le terrain. Cette formation militaire vise deux objectifs, à savoir créer un climat de confiance entre tous les éléments de la patrouille mixte et comprendre surtout les notions de DIH, le droit international humanitaire. Toutes les conditions sont réunies pour que le MOC soit véritablement opérationnel. C'est ce que nous dit le colonel Rissa Agsid Mohamed, coordinateur du MOC.
Je vois un très grand pas pour l'accord, pour la paix et la réconciliation au Mali. Aujourd'hui, toutes les conditions qu'on peut réunir pour un soldat malien, elles sont réunies dans cette cour.
Quant à la CMA qui contrôle toujours la ville de Kidal, elle n'a envoyé aucun élément encore. Le coordinateur du MOC nous donne des explications.
Les raisons, ils ont demandé des carburants, ils ont demandé la prise en charge pour qu'ils quittent, pour qu'ils se regroupent. Normalement, à partir du 17, ils doivent quitter Kidal pour Gao. Normalement, à partir du 17. Parce que l'aménagement est en train de prendre l'air d'alliance.
Le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, est financé par l'État malien et ses partenaires. L'encadrement des troupes et la logistique sont à la charge de l'aménagement. Le tout se passe sous l'œil vigilant de la force Barkhane. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Gambie, l'ONU réclame instamment que les forces de sécurité gambiennes quittent les locaux de la commission électorale indépendante qu'elles ont occupés le jour de la visite d'une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest à Banjul. Les détails avec Eddy Sango.
Le secrétaire général sortant de l'ONU a condamné hier l'intervention des forces de sécurité gambiennes contre la commission électorale indépendante de la Gambie. Il a demandé aux militaires et policiers de quitter immédiatement les locaux de la commission. Ban Ki-moon a appelé les forces de sécurité à s'abstenir des tout nouveaux actes qui menaceraient les efforts pour instaurer un transfert pacifique du pouvoir. Ces forces ont assiégé la commission électorale mardi pendant qu'une délégation des quatre chefs d'État africains s'est trouvée à Banjul pour convaincre le président sortant Yahya Jammeh de céder le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow. Pour Ban Ki-moon, c'est un manque scandaleux de respect de la volonté du peuple gambien et un défi à la communauté internationale. L'ONU demande au président Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow en janvier.
Les ressortissants africains refoulés d'Algérie ont commencé à regagner leurs pays respectifs en passant d'abord par le Niger, notamment la ville d'Agadez. Sur place, notre correspondant Abdoul Razak Idrissa a rencontré quelques-uns d'entre eux qui lui ont raconté leur calvaire.
Chantal Mabiala, congolaise de 35 ans, et Kanga Kwasi Philippe, ivoirien de 46 ans, se souviennent encore des conditions horribles dans lesquelles ils ont été traités avant leur expulsion.
Là où je suis fouti.
Ah, ça c'était pénible. Où je suis là, je n'ai même pas un rond.
À la sortie ouest de la ville d'Agadez, la plupart des près de 900 migrants rapatriés d'Algérie sont encore sous le choc. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils se sentent davantage humiliés que lorsqu'ils étaient traqués en terre algérienne pour être rapatriés. Kanga Mana et Edwige sont de nationalité camerounaise.
On n'a même pas prévu de nappe pour nous. On est plus que des criminels, on est gardés par la police.
Moi, je suis enceinte. Quel suivi j'ai ici, je ne sais pas.
Depuis le 12 décembre, ces expulsés sont acheminés à Niamey, d'où des véhicules les prennent chacun pour son pays d'origine. Abdoul Razak Idrissa à Agadez pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, première réaction du gouvernement congolais à l'article de l'agence Bloomberg, donnant des détails sur l'empire économique évalué à des centaines de millions de dollars, édifié par le président Joseph Kabila et sa famille depuis 2003. On ne peut pas empêcher un membre de la famille du chef de l'État d'avoir des ambitions ou de posséder des biens. Encore moins de faire du business, a déclaré le porte-parole du gouvernement Lambert Mende à l'AFP qui lui demandait de réagir au rapport de l'agence de presse américaine spécialisée dans les questions économiques. Notant qu'aucune loi n'interdit au président ou à sa famille de faire des affaires, M. Mendy a estimé en substance que la publication des informations collectées par Bloomberg procédait de la volonté de nuire à la RDC. Sentiment que le porte-parole congolais attribue aux Occidentaux pour avoir demandé en vain pendant des mois que le président Kabila abandonne le pouvoir à la fin de son deuxième mandat le 20 décembre. Selon Bloomberg, les Kabila ont bâti un réseau d'entreprises qui sont non seulement dans tous les secteurs de l'économie congolaise, mais aussi à l'étranger, notamment en Tanzanie, aux États-Unis et à Panama. Au plan politique, les travaux du deuxième dialogue national se poursuivent en commission à Kinshasa. Bien que les discussions se déroulent à huis clos, on sait maintenant que les tractations entre la majorité présidentielle et l'opposition achoppent sur la date des élections et le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi. Martin Fayoulou du Rassemblement d'opposition donne des détails.
Nous avons écouté la CENI. L'après-midi, nous allons revenir pour lever les options politiques. Et à partir de ces options, nous allons décider. En tout cas, nous, au Rassemblement, nous avons dit que les élections doivent avoir lieu en 2017. Ça, c'est un. De deux, il faut coupler l'élection présidentielle et les législatives nationales, comme ce fut le cas en 2011. Trois, ces deux élections auront lieu pour nous les 10 septembre 2017.
Martin Fayoulou du Rassemblement d'opposition, propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Les relations États-Unis-Afrique maintenant, le Burkina Faso et la Tunisie ont été choisis, de même que le Sri Lanka, pour bénéficier du nouveau partenariat du MCC, le Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain. Il s'agit de subventions quinquennales dont le but est de promouvoir le développement économique et réduire la pauvreté. Quels sont les critères qui ont conduit au choix de ces deux pays africains? Bagassi Koura a joint ici à Washington Maïté Otset, chargée d'analyse au Millennium Challenge Corporation.
D'abord, la liberté économique. Après ça, l'investissement dans le capital humain et aussi la bonne gouvernance.
Concernant le Burkina Faso, qu'est-ce qui vous a le plus séduit?
Même si le Burkina Faso a vraiment traversé une période assez difficile, ils ont vraiment bien renforcé leur processus démocratique, spécifiquement avec les élections bien réussies en 2015. Et on était vraiment contents de voir une tendance positive à travers le temps pour le Burkina. Ils ont bien réussi la mise en œuvre du premier compact, qui est un critère. Ils ont aussi montré des tendances très positives sur la feuille de route, un autre critère. Et le Burkina Faso s'engage vraiment fermement en faveur des réformes sectorielles et nous sommes très encouragés par ceci.
Et en ce qui concerne la Tunisie?
Donc la Tunisie, effectivement, cette année, nous avons vu qu'ils ont vraiment, déjà sur la feuille de route, ils avaient une très bonne performance, spécifiquement sur les droits civils et les droits politiques, et aussi le combat de la corruption. Le MCC, le Conseil d'administration, s'est dit que vraiment, il y avait cette très bonne performance d'un côté, mais aussi la Tunisie nous offrait une opportunité d'engagement pour vraiment travailler étroitement avec la Tunisie pour faire face aux nombreux défis en tant que la pauvreté et l'inégalité dans le pays.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant que ces pays ont été choisis?
L'équipe MCC qui gère les programmes Contact va aller sur le terrain, engager avec leurs homologues au sein des ministères, du gouvernement, pour commencer le lancement du processus du développement du Contact. Ceci entame aussi des études économiques qui regarderont vraiment les contraintes à la croissance économique et à la pauvreté dans ces deux pays. Tout cela va commencer un processus qui va durer plusieurs années où on va développer un investissement qui devra après être soumis au conseil d'administration pour une validation finale avant de commencer.
Le Burkina Faso et la Tunisie sont deux pays qui sont aussi confrontés à des problèmes de sécurité, notamment le terrorisme. Est-ce que c'est un secteur qui est aussi pris en compte?
Nous nous rendons bien compte de la situation sécuritaire dans ces pays et nous prenons ça en considération aussi, comme les autres acteurs du développement.
Maïté Ostet, chargé d'analyse au Millennium Challenge Corporation, ici à Washington. Et pour terminer, conflit en Syrie, début du retrait des rebelles d'Alep, la deuxième ville du pays. Un premier convoi à destination de l'ouest de la province d'Alep, contrôlé par les insurgés, a quitté le secteur est de la grande métropole du Nord, pratiquement reconquise par les forces du président syrien Bachar al-Assad. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.